au plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelle et fiction imaginaire, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir, amis du soir. Vous savourez vos vacances. Comment c'est déjà fini? Et comme c'est dommage. Ben, je vous propose de les prolonger par quelques histoires. D'abord, un conte provençal signé Marquis de Sade, le mari prêtre, où l'habit ne fait pas le moine. Puis, dans nos investigations sur le paranormal, un cas mystérieux d'enlèvement par les extraterrestres, l'affaire Antonia. Le mari prêtre, un petit conte provençal du marquis de Sade. Entre la ville de Ménerbe au comtat d'Avignon et celle d'Apt en Provence est un petit couvent de Carmes, isolé, qu'on appelle Saint-Hilaire, assis sur la croupe d'une montagne où les chèvres mêmes ont de la peine à brouter. Ce petit local est à peu près comme l'égout de toutes les communautés voisines de Carmes, chacune y relègue ce qui la déshonore, d'où il est aisé de juger combien doit se trouver pure la société d'une telle maison. Ivrogne, coureur de filles, sodomite, joueur, telle est à peu près la noble composition des reclus qui, dans ce scandaleux asile, offrent à Dieu, comme ils le peuvent, des cœurs dont le monde ne veut plus. Un ou deux châteaux près de là, et le bourg de Ménerbe, qui n'est qu'à une lieue de Saint-Hilaire. Voilà toute la société de ces bons religieux, qui, malgré leur robe et leur état, sont pourtant loin de trouver ouvertes toutes les portes de leur environ. Depuis longtemps, le père Gabriel, l'un des saints de cet ermitage, convoitait une certaine femme de Ménerbe, dont le mari cocu, s'il en fut jamais, portait le nom de Monsieur Rodin. Madame Rodin était une petite brunette de 28 ans, à œil fripon, à croupe rebondie, et qui paraissait faire en tout point un excellent morceau de moine. Pour Monsieur Rodin, c'était un bonhomme, cultivant son bien sans mot dire. Il avait vendu du drap, il avait été viguier, c'était donc ce qu'on appelle un honnête bourgeois. Pas extrêmement sûr de la vertu de sa tendre moitié, il était pourtant assez philosophe pour sentir que la véritable façon de s'opposer à la trop grande excroissance d'une coiffure de mari est d'avoir l'air de ne pas se douter qu'on la porte. Il avait étudié pour être prêtre, il parlait latin comme Cicéron et jouait fort souvent aux dames rabattues avec le père Gabriel qui, en courtisant adroit et prévenant, savait qu'il faut toujours faire un peu la cour au mari dont on a envie d'avoir la femme. C'était un véritable étalon des enfants d'Élie que le père Gabriel. On eût dit à le voir que toute la race humaine pouvait en paix se reposer sur lui du soin de la repropager. Un faiseur d'enfants, s'il en fut jamais, des épaules sûres, un rein du non, une figure noire et basanée, des sourcils comme ceux de Jupiter, 6 pieds de haut, et ce qui caractérise spécialement un Carme fait, disait-on, sur les modèles des plus beaux mulets de la province. À quelle femme un tel égrillard ne doit-il pas souverainement plaire? Aussi convenait-il fort étonnant à Madame Rodin d'être très éloignée, de trouver des facultés aussi sublimes dans le bon sire que ses parents lui avaient donné pour époux. Monsieur Rodin avait l'air de fermer les yeux sur tout, nous l'avons dit, mais il n'en était pas moins jaloux. Il ne disait mot, mais il restait là, et il restait dans les moments où l'on l'aurait souvent voulu bien loin. La poire était mûre pourtant. La naïve Rodin avait tout bonnement déclaré à son amant qu'elle n'attendait plus que l'occasion pour correspondre à des désirs qui lui paraissaient trop ardents, pour y résister davantage. Et de son côté, Père Gabriel avait fait sentir à Madame Rodin qu'il était prêt à la satisfaire. Dans un très court instant où Rodin avait été contraint de sortir, Gabriel avait même fait voir à sa charmante maîtresse de ces choses qui déterminent une femme pour un peu qu'elle le balance encore. Il ne fallait donc plus que l'occasion. Un jour que Rodin était venu demander à déjeuner à son ami de Saint-Hilaire avec le projet de lui proposer une partie de chasse, après avoir vidé quelques bouteilles de vin de la Nerthe, Gabriel crut voir, dans la circonstance, l'instant propice à ses désirs. « Oh, ventre bleu, monsieur le viguier, dit le moine à son ami, que je suis bien aise de vous voir aujourd'hui. Vous ne sauriez venir plus à propos pour moi. J'ai une affaire de la plus grande importance, où vous m'allez être d'une utilité sans exemple. »« De quoi s'agit-il, père ? Vous connaissez le nommé Renoux de notre ville ?»« Renoux le chapelier. » Précisément. Eh bien, ce drôle-là me doit 100 écus, et je viens d'apprendre tout à l'heure qu'il était la veille d'une faillite. Peut-être à l'heure que je vous parle, est-il déjà sorti du comptat. Il faut que j'y vole absolument, et je ne le puis. Qui vous empêche ? Ma messe, ventre bleu, ma messe, qu'il faut que je dise. Je voudrais bien que la messe fût au diable, et les 100 écus dans ma poche. Comment ? On ne peut pas vous en faire grâce ? « Oh, vraiment, oui, grâce, nous sommes trois ici. Si nous ne disions pas chaque jour trois messes, le gardien, qui n'en dit jamais, nous dénoncerait en cour de Rome. Mais il y a moyen de me servir, mon cher. Voyez si vous voulez le prendre. Il ne tient qu'à vous. Et parbleu, volontiers, de quoi s'agit-il ? Je suis seul ici avec le sacristain. Les deux premières messes étant dites, nos moines sont déjà dehors. Personne ne se doutera du tour. L'assemblée sera peu nombreuse, quelques paysans, et tout au plus peut-être cette petite dame si dévote qui demeure au château à 2 000 lieues d'ici. Créature angélique qui s'imagine, à force d'austérité, réparer toutes les fredaines de son mari. Vous avez étudié pour être prêtre, m'avez-vous dit, je crois. Assurément. Eh bien, vous avez dû apprendre à dire la messe. Je la dis comme un archevêque. « Oh, mon cher et bon ami, continue, Gabriel. » En se jetant au col de Rodin, pour Dieu, revêtez mes habits. Attendez que 11 heures frappent. Il en est 10. À cette époque, dites ma messe, je vous en conjure. Notre frère sacristain est un bon diable qui ne vous trahira jamais. À ceux qui auront cru de ne pas me reconnaître, on leur dira que c'est un nouveau moine. On laissera les autres dans l'erreur. Je vais courir chez ce coquin de Renoux, le tuer ou ravoir mon argent, et je suis ici dans 2 heures. Vous m'attendrez, vous ferez griller les sols, fricasser les œufs, vous ferez tirer le vin. Au retour, nous déjeunerons, et la chasse, oui mon ami, la chasse, et je crois qu'elle sera bonne cette fois-ci. On a, dit-on, vu dernièrement une bête à cornes dans ses environs, je veux parbleu que nous le pincions, dussions-nous nous faire 20 procès avec le seigneur du pays. « Votre projet est bon, dit Rodin, et pour vous rendre service, il n'est assurément rien que je ne fasse, mais n'y a-t-il pas de péché à cela ?»« De péché, mon ami, pas un mot. Il y en aurait peut-être à faire la chose et à la faire mal, mais la faisant dépourvue de pouvoir, tout ce que vous diriez et rien sera la même chose. Croyez-moi, je suis casuiste, et il n'y a pas dans cette démarche ce qui se nomme un péché véniel. Mais faudra-t-il dire des paroles ? Et pourquoi pas ? Ces mots-là n'ont de vertu que dans notre bouche, mais aussi elle est-elle en nous ? Voyez-vous, mon ami, je dirai ces mots-là sur le bas-ventre de votre femme que je métamorphoserai en Dieu le temple où vous sacrifiez. Non, non, mon cher, il n'y a que nous qui ayons la vertu de la transustentation. Vous en prononceriez 20 000 fois les mots que vous ne feriez jamais rien descendre. Et encore bien souvent, avec nous, l'opération manque-t-elle tout à plat. C'est la foi qui fait tout ici. Avec un grain de foi, on transporterait des montagnes, vous le savez. Jésus-Christ l'a dit. Mais qui n'a pas de foi ne fait rien. Moi, par exemple, qui quelquefois, en opérant, pense plutôt aux filles ou aux femmes de l'assemblée qu'à ce diable de morceau de pâte que je remue dans mes doigts, croyez-vous que je fasse venir quelque chose, alors ? Je croirais plutôt à l'Alcoran que de me fourrer cela dans la cervelle. « Votre messe sera donc à fort peu de choses près, tout aussi bonne que la mienne. Ainsi, mon cher, agissez sans scrupule et surtout, bon courage. Je renie Dieu, dit Rodin, c'est que j'ai un appétit dévorant, encore 2 heures sans déjeuner. Et qui vous empêche de manger un morceau? Tenez, voilà de quoi. Et cette messe qu'il faut dire. Et ventre bleu, qu'est-ce que ça fait? Croyez-vous que Dieu soit plus souillé en tombant dans un estomac plein que dans un ventre vide? Que la nourriture soit dessous ou qu'elle soit dessous, que le diable m'emporte si ça n'est pas égal. Allez, mon cher, si j'allais dire à Rome toutes les fois que je déjeune avant que je dise la messe, je passerais ma vie dans les chemins. Et puis, vous n'êtes pas prêtre, nos règles ne peuvent vous asservir. Vous n'allez donner qu'une image de la messe, vous n'allez pas la dire. Par conséquent, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, avant ou après, baiser votre femme même si elle était là. Il ne s'agit que de faire comme moi, il ne s'agit pas de célébrer ni de consommer le sacrifice. « Allons, dit Rodin, j'agirai, soyez tranquille. »« Bon, dit Gabriel s'enfuyant, et laissant son ami bien recommandé au sacristain. « Comptez sur moi, mon cher, avant 2 heures, je suis à vous. » Et le moine enchanté s'échappe. On imagine bien qu'il arrive en hâte chez madame Lavigière, surprise de le voir, le croyant avec son mari, elle lui demande raison d'une visite aussi imprévue. « Dépêchons, ma chère, dit le moine essoufflé, dépêchons, nous n'avons qu'un instant à nous, un verre de vin et à l'ouvrage. »« Mais mon mari, il dit la messe. »« Il dit la messe ?»« Eh oui, morbleu, eh oui, mignonne, répond le carme en culbutant madame Rodin sur son lit. »« Oui, chère âme, je fais un prêtre de votre mari et pendant que le coquin célèbre un mystère divin, hâtons-nous d'en consommer un profane. » Le moine est vigoureux. Il était difficile de lui résister quand il empoignait une femme. Ses raisons d'ailleurs étaient si démonstratives, il persuade madame Rodin, et comme il ne s'ennuyait pas de convaincre une petite friponne de 28 ans, à tempérament provençal, il renouvelle plus d'une fois ses démonstrations. « Mais mon cher ange, dit enfin la belle parfaitement convaincue, sais-tu que le temps presse? Il faut nous séparer, si nos plaisirs ne doivent durer qu'une messe, il y a longtemps qu'il en doit être à Litemissa Est. » Non, non, ma bonne, dit le carme, ayant encore un argument à offrir à madame Rodin. Va, mon cœur, nous avons tout le temps. Encore une fois, ma chère amie, encore une fois, ces novices-là n'y vont pas si vite que nous. Encore une fois, te dis-je, je parierais que le cocu n'a pas encore relevé son Dieu. Il fallut pourtant se quitter, non sans promesse de se revoir. On convint de quelques nouvelles ruses et Gabriel fut retrouvé Rodin. Celui-ci avait célébré aussi bien qu'un évêque. « Il n'y a, dit-il, que le quodores qui m'a un peu embarrassé. Je voulais manger au lieu de boire, mais le sacristain m'a remis. Et les 100 écus, mon père ?»« Je les tiens, mon fils. Le drôle a voulu résister. Je me suis saisi d'une fourche. Il en a eu, ma foi, sur la tête et partout. » Cependant, la partie s'achève. Nos deux amis vont à la chasse et au retour, Rodin compte à sa femme le service qu'il a rendu à Gabriel. « Je célébrais la messe, disait le gros bonnet en riant de tout son cœur. « Oh oui, corbleu, je célébrais la messe comme un vrai curé, pendant que notre ami mesurait les épaules de Renou avec une fourche. Il lui donnait ses armes, qu'en dis-tu, ma vie? Il lui plaçait sur le front. « Ah, bonne petite chère mère, comme cette histoire est drôle et comme les cocus me font rire. Et toi, mamie, que faisais-tu pendant que je célébrais ?»« Ah, mon ami, répond la viguière. » Il semblait que le ciel nous inspirât. Regarde comme les choses célestes nous remplissaient l'un et l'autre sans nous en douter. Pendant que tu disais la messe, moi je récitais cette belle prière que la Vierge répond à Gabriel quand celui-ci vient lui annoncer qu'elle sera grosse par l'intervention du Saint-Esprit. Va, mon ami, nous serons sauvés à coup sûr, tant que d'aussi bonnes actions nous occuperons à la fois tous les deux. On fait une petite pause musicale et on se revoit avec plaisir pour la deuxième histoire, qui est une histoire évidemment qui aborde le paranormal, un enlèvement dans un vaisseau extraterrestre, c'est la fameuse affaire Antonia. À tout de suite.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est bottée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. On entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot « Almeria ».
C'est pas drôle, mais on est bien obligé. de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre tomberont ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Vous êtes bien sur CFM 90.2, au plus profond des ondes. Deuxième histoire. Enlèvement dans un vaisseau extraterrestre, l'affaire Antonia. L'histoire que je vais vous rapporter se déroule dans le département de la Creuse le 10 décembre 1976. Notons au passage que 1976 est l'année où se déroule un autre cas d'enlèvement dans la Drôme, avec atterrissage et présence d'un être grand et blond près de Grenoble. Antonia est un pseudonyme. Il désigne le témoin de l'affaire, une femme de 68 ans au moment des faits. La source de ce dossier repose sur un unique rapport détaillé, établi par deux enquêteurs connus, Josiane et Jean Dégur. Le rapport fut publié à l'époque dans une revue aujourd'hui disparue, la revue des soucoupes volantes, en 1978. Cette revue était éditée dans le Var et n'a connu qu'une diffusion restreinte sur ses numéros. Elle a marqué son époque avec plusieurs scoops. Josiane et Jean Dégur ont animé dans les années 80 un groupe de recherche et organisé pendant plusieurs années un congrès ufologique national en région Auvergne. Voilà donc ce qui s'est passé sur une petite route de la Creuse en 1976. Le témoin circule seul dans sa voiture, une R4. Il est 18h30. On est en décembre, il fait nuit. Antonia a 68 ans et se dirige vers son domicile. C'est une femme qui vit seule, séparée de son mari. Brusquement, elle voit de loin, sur la route, des lumières vives qui l'intriguent. Ces lumières sont vues au même moment, à quelques kilomètres de là, par une agricultrice. Antonia roule et s'approche de ces lueurs quand elle constate que le bois sur sa droite est comme en plein jour. C'est une route de campagne, il n'y a aucune maison, aucun entrepôt. Le fait de cette soudaine luminosité est inexplicable. Cette lumière semble jaillir de partout, sans produire aucune ombre. Autre fait troublant, Antonia a le sentiment de voir les détails des feuillages, comme si elle regardait à travers une loupe. Un effet grossissant de sa vision perturbe sa perception de l'environnement. Face à ces premiers événements, Antonia ralentit. Nous nous sommes rendus, à l'époque, sur les lieux. La route est relativement droite, bien entretenue, avec des talus et un fossé de part et d'autre. Les arbres sont hauts, formant avec leurs branchages un véritable tunnel végétal. Le secteur est totalement isolé. La chaussée fait environ 6 mètres de large, en bon état. À la sortie du virage, Antonia découvre une masse imposante, ovale, lisse, lumineuse, barrant la route posée à même le sol. Son réflexe, elle ne perd pas ses moyens, est de reculer. Mais bizarrement, la voiture continue d'avancer. Est-elle attirée magnétiquement ? La petite Renault 4 ne percute pas cet objet posé sur la route. Elle le contourne sur sa droite. Et c'est à ce moment qu'Antonia voit les détails de l'appareil. La masse lumineuse était constituée d'un grand nombre de lamelles verticales disposées les unes à côté des autres. Elles étaient animées d'un mouvement oscillatoire vertical de quelques centimètres d'amplitude. Le témoin constate qu'en s'approchant, le mouvement était de moins en moins visible. Chose totalement dehors des normes physiques, la R4 passe à travers les lamelles, disposées sur le bord de l'OVNI, au sol. À cet instant, Antonia voit parfaitement un ovale plus lumineux que l'ensemble de cet obstacle mystérieux. Elle le voit à hauteur des yeux, de petite taille, mesurant une trentaine de centimètres de large sur autant de haut. Cet artefact est immobile à hauteur du regard du témoin et se rajoute en quelque sorte aux détails déjà visibles. Cet épisode donne à Antonia l'impression d'un éblouissement dans une lumière dorée, vous savez, comparable en intensité à ce que l'on connaît lors d'une consultation chez un ophtalmologue, lorsqu'il regarde le fond de l'œil. Donc très éblouissant. S'en suivent d'autres sensations physiques. Elle eut simultanément l'impression qu'on lui découpait le sommet du crâne et qu'on lui extrayait le cerveau pour le remettre après en place quelques instants plus tard. Drôle d'impression. Deux présences sont aussi perçues. Les choses qu'elle voit sont plates, sans relief, ressemblant à des bandes blanches verticales, se terminant en pointe, haute de 80 cm, comme deux flèches mises côte à côte. On peut imaginer deux cylindres vus de face, recouverts d'une sorte de chapeau pointu. De quoi s'agit-il ? Quand Antonia voit les deux êtres, elle perd connaissance. Ce qui est presque une constante dans ce type de rencontres rapprochées. On trouve la même chose dans le cas de 1979 dans la Drôme, où une jeune fille est sortie de sa voiture par deux humanoïdes de petite taille. Quand Antonia, après un temps indéfini, reprend connaissance, elle est assise à son volant et entend au même instant une voix dire « Oh, nous l'avons tué ». Le témoin s'aperçoit que son rétroviseur extérieur gauche est brisé et que ses jambes sont comme paralysées. Plus aucune sensation n'est perceptible sur ses membres. Autre élément insolite, bien qu'étant toujours sur le siège du conducteur, Antonia constate que ses jambes sont tournées à droite, ayant glissé en quelque sorte devant le siège passager. Son corps est un peu tordu, en forme de S. La R4 se trouve moteur arrêté, phare éteint, à une centaine de mètres plus loin que son dernier souvenir sur la route. Une présence mystérieuse est toujours là puisqu'elle voit comme des feux de position d'une soucoupe volante face bombée inférieure. Deux ouvertures, des trappes carrées de petite taille, d'une vingtaine de centimètres, sont apparentes. Le déroulement du film fantastique n'est pas fini. Le moteur de sa voiture se remet en marche tout seul. L'objet volant part au même moment à très vive allure. L'histoire, dans sa première phase, s'arrête là. La route est dégagée, le témoin reprend la route pour se diriger vers sa maison. Comme dans d'autres cas de rencontres rapprochées, il y a un missing time, un temps manquant. Antonia arrive chez elle vers 19h40. Elle aurait dû arriver, compte tenu de ses habitudes sur cet itinéraire, vers 18h45. Son temps de trajet s'est pratiquement rallongé de 60 minutes. Une heure de temps dont elle ne conserve pas le souvenir et dont elle dira « Qu'est-ce que l'on m'a fait ?» Arrivée à son domicile, elle est nerveuse, ne trouvant pas le sommeil au moment de se coucher. Le lendemain, toujours sous l'impression d'avoir vécu quelque chose d'étrange, Antonia constate une totale insensibilité de ses organes génitaux, ainsi qu'un gonflement anormal de leur partie externe et une déchirure épidermique allant de l'anus au vagin. Ces détails sont intimes, mais précis et non conventionnels. Elle rajoute qu'elle eut la surprise de voir que l'eau de son lavage interne ressortait pleine de terre. Difficile de se prononcer sur la nature de ses blessures et de cette supposée terre. Un médecin examinera ses symptômes. Il lui prescrit un traitement local et des calmants pour dormir. Pas d'autres préconisations ni examens ne sont apparemment faits par le médecin. Dans sa jeunesse, elle avait subi une ligamentopexie, c'est-à-dire un raccourcissement du ligament de l'utérus pour supprimer une déviation. Le rapport indique que suite à son observation, ses organes génitaux se mirent à redescendre. Aucun autre détail du dossier médical ne nous est parvenu. Plus tard, elle retrouve des images flash mémorielles pouvant correspondre à ce qu'elle aurait vécu dans l'objet volant pendant l'heure manquante. Elle parle de deux Chinois, enfin l'apparence de Chinois, l'un plutôt amical, l'autre beaucoup moins. Les deux personnages, comme dans le cadre au moins déjà évoqué, semblent mimer une sorte d'examen médical. Détail que l'on retrouve encore dans le célèbre cas de Betty Barney Hill aux États-Unis, survenu quelques années avant. Je vous en ai déjà parlé. Durant cet examen de son corps, Antonia voit une pièce ronde et une sorte de cheval d'arçon. L'objet anachronique est suspendu au plafond, dans l'objet volant posé sur la route. Et c'est sur ce cheval d'arçon que son examen médical se serait déroulé. On peut penser à une table d'examen, un fauteuil médicalisé. Joël Ménard, directeur de la revue Lumière dans la nuit et enquêteur chevronné, s'est penché sur ce cas en 1993. Il écrivait à l'époque, je cite, « L'enquête de l'affaire Antonia est un ensemble de 45 pages réalisées par Josiane et Jean Dégur. Elle constitue un remarquable effort de compréhension de cette affaire elle-même. L'approche a le mérite de ne pas tout réduire au registre psychologique et de coller aux faits allégués. La psychologie intervient pour éclairer la part qu'a su prendre le témoin dans l'élaboration de ses propres souvenirs, mais elle n'exclut en rien l'intrusion et le rôle primordial d'un phénomène, fondamentalement non identifiable. Chose importante à signaler, l'affaire Antonia aurait pu faire l'objet d'une enquête officielle. Le témoin contacta la gendarmerie et la police ensuite qui ne prirent pas sa déclaration en compte. On sait que la voiture tomba en panne après les événements. Un garagiste constata que le véhicule était le siège de phénomènes magnétiques extrêmement intenses. Ce seul élément apporte un élément d'appréciation stupéfiant. Il atteste, s'il est avéré, de la rencontre avec un phénomène non explicable et d'une forme de réalité des propos d'Antonia. Si nous reprenons la source d'enquête de l'époque, initialement une série d'enregistrements sur magnétophone, on note l'estimation précise de la taille de l'objet vu par Antonia sur la route. L'appareil mesurait entre 8 et 9 mètres de large et était positionné à quelques 50 mètres en avant de la voiture, au début de l'observation. C'est arrivé à 20 mètres de l'impact potentiel qu'aurait provoqué sa voiture touchant la masse ovale qu'Antonia stoppe et tente de passer la marche arrière. C'est à ce moment-là que la R4 avance malgré tout au pas vers l'engin. La marche arrière était bien enclenchée, mais la voiture avançait. Alors, peut-on imaginer que sous le coup de l'émotion, elle se soit mise au point mort ? C'est une hypothèse plausible. Mais le fait est là. La voiture avance. Elle est attirée par un effet magnétique ou par un système d'accroche physique que le témoin n'a peut-être pas vu. La route est parfaitement plate à cet endroit. L'OVNI sur la route était-il virtuel ou bien massif ? Voilà. Est-ce que c'est une illusion ou y avait-il vraiment matérialité ? Souvenons-nous que la voiture du témoin contourne pour partie l'objet et passe au travers des lamelles qui en sortaient. Elles ont 5 à 6 cm de large, couleur aluminium. Elles laissent voir un galbe à la base de l'OVNI sur la route. Un détail important. Au moment du passage près de la masse ovale, le témoin voit sortir de la lumière un bras humain, décrivant comme un signal d'avant en arrière. Ce geste coïncide avec l'extinction totale des lumières environnantes. Les êtres qu'Antonia voit ensuite, elle les nomme estafettes, vous savez, ces soldats chargés de transmettre un message. En fait, ces deux êtres n'ont pas d'épaisseur, ce qui fait penser à une image comme sur un écran de télévision. Le témoin les voit de près, à moins de 50 cm de sa voiture. La scène paraît onirique, et c'est un coup de feu ou quelque chose qui y ressemble qui ramène le témoin à la réalité, la faisant prendre conscience qu'elle est toujours à son volant. Elle a traversé une partie du phénomène, sa voiture semble avoir été téléguidée, elle a vu des êtres, entendu une phrase s'inquiétant de son état de santé. Elle observe ce qu'elle appelle la soucoupe volante, vue de dessous, très proche, à moins de 3 mètres au-dessus de la route et à 3 ou 4 mètres devant sa voiture. À ce moment-là, plus d'êtres et plus d'objets sur la route. On a l'impression qu'Antonia a mémorisé des séquences différentes, comme des extraits de films tirés de deux scènes auxquelles manquerait un raccord de quelques minutes. Physiquement, il s'est passé quelque chose. L'épisode de la paralysie des jambes et du déplacement des pieds indique que soit le témoin a bougé ou a été déplacé, ou que la voiture a en fait percuté quelque chose dont Antonia n'a pas souvenir. Le choc qui a pu être à la source de la paralysie momentanée et du déplacement des jambes, le fait que le rétroviseur soit cassé peut attester d'un impact sur la voiture. Alors les enquêteurs n'ont pas retrouvé de débris, mais ont constaté des traces de pneus sur la route et la marque des roues sur une partie du talus. Traces correspondant au moment où la voiture contourne l'OVNI. On le voit, l'affaire Antonia contient plusieurs éléments d'appréciation physique. Magnétisme de la voiture, bris de rétroviseur, traces de pneus et de roues, témoin indirect des lumières célestes, troubles du sommeil, marques sur le corps, effet de paralysie sur le moment, souvenirs effacés, cohérence des lieux avec la description du témoin. La taille des arbres et la configuration de la route permettaient à un objet de la taille estimée par Antonia de se positionner à cet endroit. Un chercheur qui vient de terminer la rédaction d'un catalogue français des enlèvements OVNI reste quant à lui perplexe sur le cas Antonia. Il estime que la dimension psychologique de l'affaire est dominante. De fait, il pense que le récit est suspect. Les deux enquêteurs de l'époque, face au récit d'Antonia, écrivent en 1978 « Est-il encore raisonnable de vouloir se limiter au raisonnable ? Doit-on essayer d'établir une limite entre ce qui est encore admissible et ce qui n'est déjà plus recevable ?» Nous ne pouvons répondre à cette question. Rien dans les déclarations du témoin ne nous autorise à émettre le moindre doute quant à sa sincérité. Quelques années plus tard, ils restaient sur cette position lors d'une rencontre que nous avions avec eux sur l'affaire Antonia. Et Joël Ménard, quant à lui, concluait en 1993 « La rencontre reste véritablement une rencontre. » Le témoin n'apparaît pas comme suspect d'avoir tout élaboré dans sa tête. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Est-ce un phénomène psychologique? Cela semble peu probable, vu la nature de cette femme, une femme de 68 ans, de la campagne. Certes, on peut avoir de l'imagination, mais il semble qu'il y ait quand même aussi des faits matériels. Évidemment, comme d'habitude, moi j'ai ma petite idée, mais je ne vous la dirai pas. Vous avez certainement la vôtre. Quoi qu'il en soit, c'est une affaire qui reste sérieuse et cataloguée comme surprenante. Merci de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Cogitez bien. bon pied, bon œil, bye bye.
Yeah.
I know.